Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu, que chacun d'entre nous reçoive de la part de l'Éternel, notre Dieu, la grâce, la joie, la paix, dans son cœur et dans sa vie. Levons-nous pour chanter Dieu avec le premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Nous unissons dans la prière. Malgré son silence et son secret, nous célébrons l'Éternel, le Dieu des vivants. Malgré le mal et la souffrance, nous louons l'Éternel qui crée ce monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison, malgré les révoltes légitimes de notre cœur, nous rendons grâce à Dieu. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église vers cette terre où le bonheur et la grâce ne sont pas que des vains mots, mais la réalité de chaque existence. C'est pourquoi, malgré la mort, nous proclamons la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis pour tous les hommes. Amen. Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 67 dans l'harmonisation de Genève, donc le psaume 67 indiqué B. Nous chanterons les strophes 1 et 2. Dans le livre du Deutéronome, le cinquième livre biblique, nous lisons ceci, Une parole qui peut s'adresser également à nous, bien entendu. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un lien comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Faisons nôtre ces paroles du Deutéronome par le spontané indiqué dans notre livret liturgique. Tel que tu peux nous voir, Seigneur, nous sommes prompts à nous associer à cette parole, mais plus encore à nous rassasier de pain tout en nous bouchant les oreilles. Tu nous vois, Seigneur, prompts à faire quelque chose de l'Évangile, mais bien plus encore à te demander miracle pour soulager l'homme sans qu'il nous en coûte rien. Tu nous vois, Seigneur, prompt à être fidèle à tes commandements, mais plus encore à convoiter tout pouvoir, tout savoir et tout bien devant les hommes. Nous qui sommes également sur ces chemins de Jésus au désert, délivre-nous de ces épreuves en nous comblant de ta parole. Amen. Que signifie l'événement Jésus-Christ ? C'est l'occasion d'une révélation. Une révélation supplémentaire que l'Éternel nous prend effectivement comme ses enfants et qu'il nous aime comme il a aimé Jésus-Christ. Il atteste cette promesse faite autrefois aux prophètes d'Israël. Il est pour nous tel un père, plein de reconnaissance, plein de compassion, plein de miséricorde, qui, par l'Évangile, donne sens à notre vie. Alors chantons à Dieu notre reconnaissance. Place. Nous avons ce matin le plaisir d'accueillir tout particulièrement Marco Nivergelt et Éléonore Dispersin. C'est peut-être Marco qui est le moins connu des deux, car Éléonore, souvenez-vous, fut une boursière de l'oratoire pour le Fonds Ricoeur il y a 2 ans. Et Marco et Éléonore sont tous les deux enseignants, chercheurs. Marco, plus spécialisé dans la littérature médiévale anglaise, et Éléonore, nous le savons, spécialisé dans le mal radical chez Emmanuel Kant. Du moins, c'est ce que nous avions entendu lors de la conférence qu'elle avait donnée lors de son passage à l'oratoire. Ils ne sont pas réductibles à cela. Ils sont notamment les jeunes parents d'un adorable petit Louis, qui a encore quelques séquelles de la varicelle, mais qui est tout gaillard. Voilà une trajectoire tout à fait compréhensible et néanmoins singulière. Deux enseignants-chercheurs qui, au fil de leurs recherches, au fil de leurs études, au fil de leurs entretiens, par quelques rencontres, par un passage ici, dans ce haut lieu de la spiritualité qui est-elle un phare dans l'espace francophone, disaient nos prédécesseurs à l'oratoire. Eh bien, ce qui était de l'ordre de l'intuition s'est commué en ce que nous nommons la foi, en cette tension vers l'absolu, l'ultime que nous nommons Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes là pour demander l'un et l'autre le baptême. Pour nous, c'est un double plaisir. C'est d'abord l'occasion de faire corps et famille avec vous, et puis c'est l'occasion aussi de répondre à notre divine vocation d'Église, puisqu'au moment de quitter ses disciples, Jésus leur laisse ce commandement: allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. Il ajoute cette promesse: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le temps pour vous de faire ce pas de plus sur votre cheminement spirituel et de le faire dans cette communauté extrêmement bienveillante qui pour vous est un visage suffisamment sympathique et familier pour que ce soit le lieu où puisse s'exprimer ce qui jusque-là était de l'ordre de l'intime. Alors je vais vous proposer de me rejoindre près de ce baptistère et je vais surtout tout de suite vous donner la parole pour que vous disiez précisément quelques mots sur ce cheminement.
Merci.
Alors mettez-vous plutôt ici, comme ça tout le monde peut vous voir.
Alors nous avons toujours imaginé qu'il était bien plus facile de se convertir d'une religion à une autre, par exemple du judaïsme au catholicisme ou du catholicisme au protestantisme, plutôt que de se convertir de la négation du religieux à la foi. Ayant grandi tous les deux dans des familles non religieuses, l'expérience de la conversion est d'autant plus difficile, mais aussi plus intense, car elle doit passer par un cheminement personnel. En ce qui me concerne, ce cheminement n'aurait pas été possible, ou du moins a été grandement influencé, par deux personnes en particulier, deux Paul. Mon grand-père, Paul Nothomb d'abord, et le philosophe Paul Ricoeur ensuite. Le premier a guidé mes tout premiers pas d'enfant, puis d'adolescente, sur le chemin tourmenté des questions existentielles, puis théologiques. Le second m'a donné des pistes de réflexion pour comprendre autrement le thème central de ma formation de philosophe, à savoir la question du mal, comme l'a dit James, en attirant mon attention sur la notion de surabondance de la grâce et la promesse qui l'accompagne. Ce qui m'a mené d'ailleurs vers un troisième pôle, celui du Nouveau Testament cette fois. Je ferme ici ma parenthèse biographique. Et je reviens à Marco et moi. Après de longues hésitations par rapport aux religieux, nous avons donc décidé de faire ce pas. De longues hésitations, car longtemps nous avons cru que la conversion que ce baptême représente pour nous, devait être la visualisation d'une certitude absolue, de l'aboutissement d'un travail qui s'exprimerait dans une croyance absolue, une foi inébranlable et triomphante. celle de celui ou de celle qui n'aurait plus de questions finalement à se poser. Maintenant qu'on en parle, cette vision d'une foi inébranlable nous fait presque sourire. D'un côté par sa naïveté, d'un autre par son intransigeance. Intransigeance notamment envers nos propres doutes, envers nous-mêmes et envers les autres croyants. La recherche de cette certitude, d'une intensité de foi presque absolue, nous semble maintenant un peu monstrueuse, inhumaine, car elle essaye en quelque sorte d'affirmer le divin à travers la négation de l'humain. La négation finalement du doute, de la fragilité, de l'hésitation et de l'erreur, ou de l'errance si vous voulez. Une humanité qui est finalement aussi celle du Christ.
Face à cette barbarie qui vient d'être décrite, nous allons essayer de réinjecter un peu d'humanité dans tout cela. Que demandez-vous, Éléonore ?
Je demande le baptême.
Approchez-vous. Éléonore, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous aussi, Éléonore, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous, Marco, que demandez-vous ?
Je demande le baptême.
Je vous invite à vous approcher. Marco, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous également, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous venons d'entendre votre décision libre de recevoir ce baptême. C'est une décision de se savoir relié à plus que vous-même. C'est aussi s'inscrire dans cette filiation de la foi chrétienne qui s'est exprimée au fil des ans par ce que l'on appelle des confessions de foi. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez exprimer votre foi et nous allons nous y associer. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous lever pour nous associer aux mots qu'Éléonore et Marco ont choisis.
Je crois à l'espérance, ô combien plus, à la surabondance, en dépit du mal et des limites de notre raison. Je crois à la promesse d'un Dieu qui vient plutôt que d'un Dieu qui est. Je crois en la possibilité d'une résurrection malgré l'énigme de la souffrance. Je crois au don de Dieu dans l'abandon d'une volonté humaine toute puissante. Je crois qu'il faut croire pour comprendre plutôt que de comprendre pour croire. Je crois à l'espoir de la grâce contre le désespoir du non-sens. Amen.
Je crois dans l'efficacité de la grâce pour nous accompagner dans notre effort de saisir véritablement le mystère de l'incarnation et de la divinité du Christ. Et pour nous soutenir dans l'apprentissage de la prière. Car la prière est le seul langage qui nous permet de parler à Dieu, de parler de lui et d'en déchiffrer les signes. Je crois dans la prière faite non comme une demande, mais comme une découverte de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans notre vie. Une présence manifestée sous des formes toujours nouvelles et mystérieuses. Je fais appel à l'opération de la grâce pour nous soutenir dans la contemplation, mais aussi pour nous orienter vers la charité, car la charité est à l'homme ce que la prière est à Dieu. Je crois que c'est seulement à travers la charité nourrie par la prière que l'homme retrouve sa nature ultime, car il peut comprendre l'exemple du Christ et ainsi devenir pleinement humain. Amen.
pouvez prendre place, mais vous, pas encore. Car nous vous avons baptisé, c'est aussi le signe que nous vous accordons une place entière dans notre Église, qui n'est qu'un visage de l'Église universelle, de l'Église invisible. Vous avez toute votre part à l'œuvre de l'Église à travers cette charité dont vous nous rappeliez l'essence. Mais le baptême n'est pas le point final de votre histoire. Il n'est qu'une étape sur le chemin de votre cheminement spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, sans vous demander une liste exhaustive d'engagements que vous ne pourriez pas tenir, car comme vous le savez, grâce à l'apôtre Paul, vous êtes bien trop pécheurs pour pouvoir tenir vos engagements. Il s'agit plutôt de tracer une sorte de perspective, de dire quelle est votre espérance, quel est cet horizon qui s'ouvre devant vous. Et cette fois, c'est à Marco que je laisse le soin d'offrir les mots qui, en fait, vous concernent bien sûr tous les deux.
Nous commençons à nous rendre compte aujourd'hui que la réalité indéniable de cette faiblesse, de notre insuffisance à comprendre le divin, n'est pas antithétique de l'expérience de la foi chrétienne. Au contraire, nous estimons à présent que le doute est l'essence même d'une conversion, car seul le doute permet la réalisation de la nécessité et de l'intensité de la grâce. L'acceptation de cette insuffisance humaine, que avant nous estimions gênante, nous apparaît maintenant libératrice. Elle nous libère du poids de devoir résoudre toutes les difficultés par nos propres forces et nous aide à admettre nos propres limites. C'est aussi la découverte de nous-mêmes qui acceptons de nous mettre au même niveau que tous les autres membres de la communauté des croyants, des membres de l'Église intemporelle et temporelle qui dépendent tous au même degré de l'opération de la grâce, qui seule engendre une vraie croissance spirituelle. La conversion signifiée par ce baptême n'est donc pas seulement pour nous une déclaration de foi formelle. Elle représente surtout une invitation active à l'opération de la grâce, à la manière d'une prière ouverte. Loin d'être un aboutissement, ce baptême marque dès lors le début d'un chemin, sans doute encore long et accidenté, mais un chemin qui n'est plus solitaire et dans lequel nous pouvons compter sur des forces qui dépassent les nôtres.
Frères et sœurs, nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu nous donnes jour après jour, en particulier pour ton esprit qui habite en nos cœurs, nous rassurant et nous fortifiant, nous guidant vers toi et donc vers les autres. Nous te remercions pour Marco et pour Éléonore, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui comme des frères et sœurs. Grande est notre joie pour ce moment de foi et de confiance. Fortifie tout particulièrement leur foi, accompagne leur démarche et fais que leur présence parmi nous ce matin, ce témoignage de foi, engendre de nombreux lendemains rayonnants. Aide-nous, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus près de toi, à être plus confiants dans ta parole, à être plus au service des autres. Que ta joie, oui, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Je vous invite à regagner cette communauté qui est la vôtre. Deux passages bibliques porteront cette prédication, deux passages bibliques choisis par Marco et Léonore. Tout d'abord, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 32 et 33, c'est pendant le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Voici ce qu'il leur dit, selon ce que nous rapporte cet évangéliste. « Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais moi, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, bien évidemment, un chapitre incontournable pour Éléonore, le chapitre 5, les versets 15 à 21. L'apôtre Paul s'exprime en ces termes. « Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 202. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 qui permettront d'exprimer encore notre reconnaissance pour les deux baptêmes qui viennent d'être célébrés. Éternel Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends ces textes vivants, afin qu'ils deviennent pour nous ta parole. Chers frères et sœurs, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà une formule rituelle bien parpaillotte, souvent utilisée à la manière d'un doudou spirituel d'ailleurs. C'est ce que les protestants disent assez régulièrement pour se consoler des misères du moment, pour ne pas perdre espoir dans des lendemains qui chantent un peu plus. Mais la vérité de cette affirmation n'est pas toujours évidente à vérifier dans notre quotidien. Pour une part, cette difficulté à vérifier la véracité de ce verset biblique tient probablement à un problème de compréhension par rapport à ce que signifie le péché. Nous avons du mal à comprendre ce qu'est le péché. Nous en parlons souvent sans forcément employer ce terme de la bonne manière qui soit. Je vais donc faire un peu d'orthodoxie pour vous ramener à de meilleurs sentiments au sujet du péché. Le péché est souvent considéré comme une faute morale. Probablement d'ailleurs en raison du fait que, au Moyen-Âge, on a développé les listes des péchés véniels, des péchés mortels, et si nous prenons le soin de penser à ce que ces listes ont provoqué, à savoir toute une série de punitions, de sanctions ou d'actes qui permettent de réparer les fautes, eh bien nous comprenons que dans cette perspective, inévitablement, le péché est dans l'ordre de la morale. Cela, Éléonore pourrait très bien vous l'expliquer en faisant l'exégèse de la conférence de Paul Ricoeur sur le mal. À partir du moment où il y a punition, c'est donc que le mal commis relève de la morale. À chaque faute correspondrait sa peine, sa sanction. Donc, que des péchés puissent être mortels, que l'on soit sanctionné de mort pour un péché commis, laisse donc entendre que le péché serait dans le registre de la morale. Mais la Bible nous oriente sur une autre compréhension de ce qu'est le péché, non pas un problème moral, mais un problème spirituel, qui n'est pas directement lié à la question des fautes. Pour comprendre cela, il suffit de suivre l'apôtre Paul, qui n'y va pas par quatre chemins, qui nous fait remonter directement à Genèse, l'épisode d'Adam, Ève, le petit jardin, le petit pique-nique, et qui va rappeler l'histoire, la situation de celui par lequel non seulement le scandale est arrivé, mais le péché est entré dans la matière humaine. Le péché serait entré dans la matière humaine. Pour appuyer ma compréhension non morale du péché, j'attire votre attention sur deux éléments. Le premier élément concerne l'absence de punition dans le récit biblique de la Genèse. Alors, bien entendu, il est d'usage de dire qu'Adam et Ève ont été punis pour leur transgression en étant condamnés à mort, et comme cela ne suffisait certainement pas, condamnés à avoir des grossesses difficiles et à devoir suer sang et eau pour sortir quelque chose de ce fichu sol. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que cela pouvait être compris autrement qu'à la manière d'une punition. Comme il y a des parents de jeunes enfants dans l'assistance, si je vous dis que nous entrons dans cette époque tout à fait favorable aux bronchiolites, ce qui supposera quelques séances de clapping par le kinésithérapeute, suis-je en train de vous punir de quoi que ce soit ? Suis-je en train de vous maudire ? Non, je vous préviens de ce qui risque de vous attendre. Je vous informe, je vous mets en garde, de manière à ce que chacun puisse se préparer et soit donc moins effrayé si la chose venait à se présenter, car c'est absolument horrible des séances de clapping. Soyez-en persuadés, surtout pour les mamans, paraît-il. Pour les pères, c'est épouvantable également. Il me semble que c'est ainsi que nous pouvons comprendre l'issue du pique-nique dans le jardin d'Éden. Dieu ne punit pas Adam et Ève. Il les prépare à la possibilité d'un avenir marqué par la liberté, et donc, afin qu'ils soient mieux équipés pour affronter le futur, il leur décrit ce qui potentiellement peut leur arriver. Outre le fait qu'il n'y a pas de punition, qui serait la trace que le péché relève de la morale, je porte à votre connaissance ce deuxième argument, l'exégèse que Martin Luther fait de ce passage, dit du péché originel. Cette expression, ce titre, pose problème, parce que le mot « péché » ne figure pas dans ce texte biblique, pas plus que le mot de « faute » d'ailleurs. Donc, la question qui se pose pour le lecteur, c'est de savoir où se situe le péché dans ce récit du Jardin d'Éden. À quel moment y a-t-il péché ? Eh bien, pour Luther, le péché, ce ne serait pas dans la transgression de la loi qui, évidemment, conduirait à une faute morale, ce n'est pas la consommation d'un fruit qui a été défendu. Pour Luther, le péché est dans la question qui est posée par le serpent : Dieu a-t-il vraiment dit ? Dans cette question dans laquelle s'engouffrent Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit ? Pourquoi est-ce que c'est là le péché, selon Luther ? Eh bien, parce qu'en posant cette question, on met Dieu à distance. On devient extérieur à Dieu. On fait de Dieu un objet. Un objet de référence, certes, mais un objet. On en fait un « il », on l'objectivise. Dieu devient un « quelque chose ». On est donc extérieur à Dieu, et c'est là le péché, cette distance qu'il y a entre Dieu et soi. Et de ce point de vue, le péché donc vient un problème spirituel, et pas avant tout moral. À chaque fois que nous mettons Dieu à la troisième personne, nous en faisons un objet. Et si nous suivons le théologien allemand Rudolf Bultmann, en agissant ainsi, Dieu devient un donné qui se soumettrait à notre connaissance. Pour le dire peut-être de manière plus compréhensible avec cette formule devenue fameuse, parler de Dieu, c'est parler de toute autre chose que de Dieu. Pour Bultmann, parler ainsi de Dieu, parler de Dieu à la troisième personne, n'est pas seulement une erreur et une illusion, je cite, c'est un péché. Le péché, selon Bultmann, c'est de parler de Dieu comme d'un objet auquel on se réfère. Non pas parce que les mots nous manqueraient pour dire Dieu, ou parce qu'ils seraient toujours insuffisants pour dire la nature de Dieu, mais en raison du fait que lorsque nous parlons de Dieu comme d'un objet de connaissance, il cesse d'être le Dieu qui s'incarne. Il cesse d'être le Dieu qui détermine notre existence. Il cesse d'être le Dieu qui permet à l'homme de devenir lui-même. Il cesse d'être ce Dieu qui met en question l'existence de l'homme et lui permet d'avoir une existence singulière, unique en son genre. C'est la raison pour laquelle, selon Bultmann, la seule manière de parler de Dieu est de parler de notre existence concrète. Pour Bultmann, on ne peut pas correctement parler de Dieu sans parler de nous. De nous parce que nous sommes le lieu où Dieu s'exprime, le lieu où Dieu agit, le lieu où Dieu se manifeste. Nous sommes l'épiphanie de Dieu. C'est ce que fait également l'apôtre Paul. C'est ce que fait cette sublime revue Évangile et Liberté, avec ses rubriques Agir et ses rubriques Vivre, où nous ne sommes pas dans la construction de mécanos dogmatiques, mais bien dans le récit de trajectoires qui mettent en évidence la manière dont Dieu fait histoire avec nous. L'apôtre Paul fait de même en parlant de l'homme chargé de son passé et de l'homme lourd de son présent. D'ailleurs, il y a quelque chose qui peut être un peu agaçant chez Paul, c'est sa capacité à se mettre en scène. Paul parle beaucoup de lui. On peut prendre ça comme du narcissisme. C'est, selon Bultmann, la seule manière de mettre son interlocuteur sur la piste de Dieu. Dieu qui fait grâce à chacun, personnellement, et non pas d'un Dieu dispensateur d'une grâce universelle qui effacerait les singularités et qui uniformiserait les individualités. Le baptême atteste cela également, atteste le fait que nous avons une valeur unique. On n'a pas baptisé Éléonore et Marco ensemble, mais successivement. Et chacun a entendu la promesse, la bénédiction qui a suivi ce baptême d'une manière unique. Le baptême atteste que c'est notre être propre qui est pris au sérieux et non le genre humain. Le baptême atteste que c'est notre responsabilité individuelle qui est engagée. C'est la raison pour laquelle ils ont librement demandé le baptême. C'est la raison pour laquelle Paul referme ce chapitre du péché originel qui serait héréditaire. Et si je peux me permettre, quelques siècles avant Emmanuel Kant, qui en fait de même dans De la religion. Mais c'est parce qu'entre-temps, il y a l'ami de Marco, un certain Augustin d'Hippone, qui avait réouvert le chapitre. Il a donc fallu que le deuxième Paul de Tarse, à savoir Emmanuel Kant, referme ce chapitre-là. C'est dans cet épître que l'apôtre Paul met un point final à cette idée selon laquelle il y aurait un péché héréditaire, un mal héréditaire qui se transmettrait de génération en génération. À supposer que le péché soit entré par un homme, eh bien, en tous les cas, on peut être convaincu qu'il est sorti par Jésus-Christ. Donc, passons à autre chose. Mais Paul et Emmanuel Kant ont autre chose en commun. C'est de constater une sorte de forte propension au péché. Kant parlera d'un penchant au mal, que nous sommes fascinés par le mal. Nous pourrions dire que nous avons une réelle tendance à voir ce qui ne va pas et à nous y attacher. Mais je le répète, le péché ne relève pas de la morale, mais du spirituel. Le penchant de l'homme malheureux, c'est donc de se fier à des images au lieu de se fier au réel. C'est de placer sa confiance dans des discours sur Dieu au lieu de se confier au discours de Dieu. Le penchant de l'homme et notamment de l'homme croyant, de l'homme religieux, c'est de se soumettre au Dieu des textes bibliques, par exemple, plutôt que de se soumettre à la parole de Dieu qui, elle, appelle l'homme, qui le met en question, qui le remet en question, qui initie notre quête de sens. C'est là un grand péché qui guette tous les chrétiens, pour ne prendre que notre exemple. Adorer le Dieu des textes bibliques, c'est adorer un objet. Ce n'est pas adorer le Dieu vivant. C'est adorer une représentation, une image, un discours, quelque chose de figé, de définitif, une image, une idole, au lieu de placer notre confiance dans ce Dieu vivant qui appelle à la vie ce qui n'est pas. Et ce Dieu-là n'est pas enfermé dans le texte biblique. Le texte biblique en donne quelques traces qui nous permettent de le retrouver dans notre existence concrète. Mais il faut aller plus loin que Bultmann et ne pas considérer que la seule manière de parler de Dieu est de parler de notre existence au sein de laquelle il fait son œuvre. Et c'est Marco qui nous a mis sur la piste, sur la voie qui mène à l'au-delà de Rudolf Bultmann. Car ce qu'il convient, c'est d'employer un langage de l'intérieur. C'est la seule façon d'abolir la distance. Un langage de l'intérieur. Un langage où ce n'est pas notre point de vue qui produit le discours, mais un point de vue partagé avec le divin. Il faut donc que ce langage de l'intérieur qui abolit la distance, soit un langage propre à faire tomber les voiles qui font écran à ce Dieu qui transforme, à ce Dieu qui fait mourir et ressusciter. Or, ce langage de l'intérieur, le seul langage qui soit, c'est le langage de la prière. C'est le sens des paroles de Jésus que nous avons relues dans l'Évangile selon Jean. Le Père est avec moi. La distance est abolie. C'est le langage de l'intimité. C'est le langage de l'intérieur. C'est le langage de la prière que Jésus va déployer dans le verset suivant, le début du chapitre 17, qui sera tout à l'heure notre prière d'intercession. Là encore, il convient de ne pas laisser la prière à l'état de ce qu'on en fait trop souvent, le catalogue des bonnes intentions ou la liste des désirs du moment. La prière est quelque chose de bien plus sérieux que cela. La prière, c'est ce face-à-face avec la vie placée face à l'ultime. La prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec les réalités qui nous entourent pour distinguer les réalités dernières de ce pseudo-réel dont nous nous encombrons facilement. Distinguer l'essentiel du secondaire. Ça, vous savez en général. Mais la prière est ce patient travail qui consiste à interpréter les signes des temps, qui consiste à découvrir cette heure qui vient mais qui est déjà là, qui est là mais qui n'est pas encore paru dans toute sa clarté. La prière, c'est ce travail de l'archéologue, en fait. Ce travail de l'archéologue qui est sur le site et qui va mettre à jour le site qui se trouve là, quoique caché par des siècles d'histoire. La prière, c'est cet acte de l'homme en bien des points semblable à l'agriculteur qui arpente son champ d'asperges et qui interprète le craquement de la terre comme l'œuvre de cette plante qui a poussé, qui est là, encore cachée, mais disponible à la cueillette. La prière, c'est non seulement ce qui permet à l'homme d'interroger le monde, mais la prière, c'est ce qui interroge le monde. C'est l'homme interrogeant le monde. C'est l'homme interprétant les signes, faisant quelque chose de ce qui est disponible là, autour de lui. Non pas comme des objets intéressants qui lui permettront d'augmenter son savoir, mais comme les éléments de sa propre histoire. Les éléments qui sont en interaction avec lui. Les éléments qui donnent sens à ce qu'il est. Les éléments qui le construisent même. La prière, c'est ce que l'on pourrait appeler aussi méditation sur le monde, à la lumière de l'absolu. Cet absolu que les textes bibliques nomment l'éternel. C'est lorsque nous posons un regard pénétrant sur la vie. Et alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que c'est à ce moment que nous pouvons découvrir que le péché, loin d'être une réalité dernière, est submergé par cette grâce qui surabonde. Mais c'est parce que nous regardons le péché face à face. Nous nous penchons sur l'abîme du mal, sans en être fascinés, sans s'y soumettre, mais en étant attentifs à cette vie qui pointe ici et là, tout autour. Une contemplation du mal sans qu'elle se commue en fascination. La prière, c'est justement ce qui nous rend disponibles à cette autre chose que le mal qui nous séduit tant. La prière, c'est aussi cet effort lorsque je pense pouvoir me suffire à moi-même. C'est cet effort pour briser quelques idoles sur lesquelles j'ai posé mes fondements. C'est cet effort qui ne se fait jamais sans quelques tribulations, nous rappelle Jean, c'est-à-dire sans quelques oppressions et parfois dépressions. Parce que la prière, c'est ce combat. C'est une lutte et certainement pas un quiétisme. Vous êtes là, tranquillement posé dans cette chaleur ambiante de l'oratoire du Louvre, et notre attitude est tout à l'opposé de ce qu'est l'attitude chrétienne. Souvent, on se dit, mais la prière doit être aussi passive que possible pour laisser à Dieu le soin de nous envahir, de faire l'œuvre. La grâce, c'est le fait que nous soyons passifs face à Dieu. Il faut donc faire silence pour que la prière soit authentique. Mais faire silence, c'est encore une action de l'homme. Faire silence, c'est bien faire quelque chose. L'homme ne peut pas se fuir lui-même sans s'emporter partout où il va. Bultmann. Agir en interprétant notre environnement, en essayant de donner sens à ce qui nous entoure, en étant disponible à l'ensemble du réel et pas simplement à ce qui nous a fascinés à un moment donné. Eh bien, Jésus révèle que la vie en plénitude qui nous est offerte ne s'accueille que de hautes luttes par la prière. Une prière qui comble le fossé qui nous sépare de Dieu et qui, ultimement, arrache la bénédiction semblable à celle de Jacob dans le livre de la Genèse. Une bénédiction est arrachée parce que, au terme de cette lutte, au terme de ce dialogue qui s'est engagé entre Jacob et le personnage mystérieux, l'un et l'autre sont parvenus à aller dans l'intimité de l'être, le nom. Dis-moi quel est ton nom avant que l'aube se lève. Et Jacob recevra comme réponse une bénédiction. Parce que Jacob est allé au fond des choses, dirions-nous vulgairement aujourd'hui. Parce que Jacob a aboli cette distance. Il n'a pas considéré Dieu comme un « il », comme un objet. C'est donc par la prière, par la mise en doute de nos représentations, par la contestation des objets devenus sacrés, parmi lesquels une traduction biblique, mais aussi positivement par l'interprétation des signes, par une meilleure compréhension de celui ou de celle qui se tient à mes côtés et qui est porteur d'une vérité qui mérite de s'exprimer et d'être comprise. C'est par cet effort d'interprétation dans le dialogue que devient vraie pour nous-mêmes cette affirmation de l'apôtre Paul, là où le mal a abondé. Alors oui, la grâce a non seulement surabondé, mais elle surabonde encore aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, pas de quiétisme pour ce cantique 407. Nous allons chanter les quatre strophes de façon tonitruante et ne pas nous endormir sur ce don que Dieu nous fait. Alors, debout, sainte cohorte, mais pour chanter le cantique 407, les strophes 1, 2, 3 et 4. Quelques informations à partager. Vous rappelez que nous sommes le premier dimanche du mois, en conséquence de quoi, après le culte, vous pouvez vous rendre à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire. Un repas a été organisé. Si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire, il est encore possible de venir néanmoins. C'est l'occasion de pouvoir vivre un bout d'oratoire autrement. Demain à 20h, ce sera notre rencontre d'approfondissement théologique consacrée à Wilfred Monod. Et c'est Laurent Gagnebin qui nous présentera l'un de nos héros oratoriens, Wilfred Monod, donc à 20h, salle Monod, bien évidemment, de 20h à 21h30. Le lendemain, mardi, deuxième rencontre de l'étude biblique consacrée à Ézéchiel, c'est à 14h30, salle Monod également. Et puis le soir, la troisième rencontre de l'initiation théologique, elle, consacrée au Christ, c'est à 20h. Mercredi à 15h30, c'est le groupe de grec confirmé. Samedi à 10h, c'est le groupe d'hébreu tout niveau. Gilles Castelnau vous rappelle que même si vous n'avez pas pris le train sur le quai, vous pouvez emprunter la correspondance dès samedi prochain. Et dimanche prochain, à partir de 10h30, c'est certes le culte qui sera présidé par Marc, mais aussi un dimanche catéchétique. Cela signifie que si vous avez chez vous ou proche de vous des enfants entre 3 et 15 ans, c'est ici qu'ils seront. C'est ici que vous les conduisez, soit pour l'éveil à la foi, entre 3 et 6 ans, soit à l'école biblique, jusqu'à la fin de l'école primaire, soit au catéchisme, s'ils sont collégiens. Et s'ils sont lycéens, ce sera le groupe des lycéens, avec Pierre Hubac que je vois au milieu de notre nef. Et les festivités se terminent à 16h. Pensez à apporter un pique-nique, papier, crayon, ficelle, boussole et Bible. C'est maintenant le temps de l'offrande. Et bien que ce soit un temps où la grâce surabonde. Le premier dimanche de novembre est l'occasion pour notre communauté de rappeler les personnes décédées, rappeler leurs noms, les évoquer. Il s'agit souvent de personnes connues de nom ou de visage. Liliane Gachaud, Lani Narmanga Ratsewana, Jacques Fromental, Louis Faventine, Bernard Bachou, Thierry Vignal, Robert Planté, Elisabeth Becker, Michel Verne, Olivier Marty, Daniel Rozoum, Olivier Beny, Raymond Velten, Evelyne Minard, Pierre Guillemin Tarrer, Philippe Roy, Gustave Nganguet, Jacqueline Elft, Jeanne Ducousseau, Alec Prochiantz, Lise Becbédé, Charles Blumrander, Olivier Ledoux, Raymond Silberreis, Maurice Sor, Annie Dufresnoy, Jacques Suisse, Georges Elft, Odette Guillot, Gladys Brunon, Fatima Traoré, Agnès Scheller, André Coste. C'est aussi l'occasion d'associer ceux qui constituent notre famille, qui, à l'occasion d'une émotion, découvrent un visage de frère ou de sœur. Gilène Dupont, Claude Verlon. Ce sont aussi tous ceux qui n'ont ni visage, ni nom. Ceux qui ne sont ni d'ici, ni d'ailleurs, comme disait Camus. Mais il est pour eux une patrie, peut-être. Il est pour nous une patrie. C'est celle de la prière. Et je vous invite à vous associer à ces deux prières que Jésus a prononcées selon les évangélistes. Nous nous unissons dans la prière. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Moi, j'ai fait des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et je suis dans ce monde, ceux-ci sont dans le monde, et moi, je viens à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un et nous soyons un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ô Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde. et je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Et cette prière que Jésus a enseignée plutôt à ses disciples, une prière que nous disons en nous levant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce ne sont que quelques mots, ce ne sont que quelques signes qui vous renvoient à quelque chose qui surabonde, qui abonde bien au-delà de ces quelques mots, de cette simple phrase. Une promesse. L'Éternel nous bénit et nous garde. Il porte son regard sur nous et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne sa paix. Amen.